Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 8 juin 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, Tchad, le mouvement Les Transformateurs entre dans la légalité. Il opérait sans papier depuis 2018. Au Burkina Faso, le nombre de déplacés a explosé après l'attaque meurtrière de Solane. Un soldat ivoirien a été tué dans le nord du pays. La vice-présidente américaine Kamala Harris est arrivée au Mexique pour discuter de l'immigration clandestine. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Un soldat ivoirien est mort lundi soir dans une attaque contre la ville de Toubo, en Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina Faso. Nathalie Barge nous en dit plus.
Le détachement militaire très déployé sur les lieux a immédiatement réagi et repoussé l'ennemi, indique le communiqué signé par le général Nassina Doumbia, chef d'état-major des armées, précisant que les opérations de ratissage se poursuivent avec des renforts dépêchés dans la zone. Le 29 mars dernier, des zones armées avaient ciblé deux positions militaires à Kafolo et Kolobougou, faisant 6 morts, 3 soldats et 3 assaillants. L'attaque de Kafolo avait été lancée par une 60aine de terroristes lourdement armés venant du Burkina Faso, selon l'armée. En juin 2020, 14 soldats avaient déjà été tués dans cette localité. Ces attaques non revendiquées sont attribuées aux djihadistes actifs dans la région sahélienne. La Côte d'Ivoire a déjà été frappé une première fois par une attaque djihadiste en mars 2016 à Grand Bassam qui avait fait 19 morts. L'attaque de ce lundi est survenue peu avant l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme prévue jeudi à Jacquesville près d'Abidjan.
Nouvelle attaque meurtrière au Nigeria, mais cette fois dans le centre du pays. Des hommes armés ont pris d'assaut un marché et un terrain de football, tuant au moins 27 personnes et faisant plusieurs blessés. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'attaque est survenue au cours du week-end, mais on l'a appris aujourd'hui mardi par la voix de la porte-parole de la police de l'État de Benue. Elle a indiqué qu'une enquête était en cours pour déterminer les motifs de l'attaque survenue au moment de la fermeture du marché. C'est une zone où les affrontements entre éleveurs et agriculteurs sont fréquents, des disputes souvent liées au foncier, au pâturage et à l'eau. Des gangs criminels lourdement armés dans le nord-ouest et le centre du Nigeria pillent également souvent des villages, volent du bétail et procèdent à des enlèvements pour demander des rançons. La semaine dernière, au moins 88 personnes ont été tuées lorsque des hommes armés et à moto ont attaqué 7 villages du nord-ouest dans l'état de Kebbi. Des groupes armés qualifiés de bandits par les autorités ont intensifié leurs attaques contre les écoles dans le nord-ouest, sans oublier le conflit avec Boko Haram dans le nord-est du pays qui dure depuis une dizaine d'années. Le président Mohamedou Buhari fait face à d'intenses critiques alors que les forces de sécurité n'arrivent pas à faire face à ces différents foyers d'insécurité.
Burkina Faso, quelques 7000 familles ont fui leur foyer après l'attaque contre le village de Solane. Dans le nord-est du pays, l'attaque a fait 132 morts selon des chiffres officiels publiés par le gouvernement burkinabé. Claire Morin-Jigou.
Nous constatons qu'il y a plus de 7000 familles qui sont déportées à Séba, a déclaré le premier ministre burkinabé Christophe Dabiré, qui s'est rendu sur place hier. Le premier ministre a assuré que ces déplacés allaient recevoir de l'aide, notamment pour se nourrir et se loger. Le HCR a déclaré que 3300 personnes avaient fui après l'attaque vers des villages proches de Séba et Sampelga, dont plus de 2000 enfants. Selon un élu local, Solane est devenu un village fantôme où les forces armées ont pris position et où les assaillants ont quasiment tout incendié. Les habitations, le marché, l'école et le dispensaire où tout a été emporté. C'est la première fois que notre pays connaît une attaque avec une destruction aussi massive, a souligné Christophe Dabiré, rappelant que le Burkina avait remporté des victoires contre le terrorisme par le passé. La situation de Solane constitue un nouveau défi pour nous, a reconnu le chef de gouvernement.
Le médiateur de la CEDEAO dans la crise politique malienne, Goodluck Jonathan, est arrivé aujourd'hui à Bamako. Les États ouest-africains dépêchent leur émissaire à Bamako en vue de s'assurer que les assurances données par le nouveau président de transition, le colonel Assimi Goïta, suffisent à satisfaire leurs exigences quant à un retour des civils au pouvoir après 2 coups d'État. L'émissaire de la CEDEAO arrive au lendemain de la prestation de serment et de la nomination d'un nouveau premier ministre de transition. Au Tchad, le parti de l'opposant en succès, Masra, vient d'être autorisé par les nouvelles autorités de N'Djamena. Le mouvement Les Transformateurs, fondé en 2018, n'avait jusqu'ici pas obtenu des autorités sa transformation en parti, au motif que certains membres du bureau politique n'avaient pas l'âge requis. M. Masra s'était porté candidat à l'élection présidentielle d'avril, mais sa candidature avait été invalidée au motif qu'à 38 ans, il n'avait pas l'âge minimal de 40 ans requis. En RDC, 10 personnes ont été tuées et l'hôpital général de Goga, dans le sud de l'Ituri, incendié. L'hôpital est situé dans une zone où de violents affrontements ont opposé lundi l'armée régulière à des miliciens. La province de l'Ituri est placée avec le Nord Kivu sous état de siège depuis le 6 mai par le président Félix Tshisekedi pour lutter contre les groupes armés. RDC toujours, la Belgique va restituer le 21 juin une relique de Patrice Lumumba. Lors d'une cérémonie à Bruxelles présidée par le premier ministre belge, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est attendu pour l'occasion à Bruxelles. Patrice Lumumba a été le premier ministre du Congo indépendant avant d'être assassiné en janvier 1961 à l'âge de 35 ans. Les députés d'opposition en Namibie ont fustigé aujourd'hui au Parlement l'accord avec l'Allemagne sur le génocide de milliers de Herero et Nama durant l'ère coloniale, accusant Windhoek de les avoir écartés des négociations, tout comme les représentants des deux tribus. Après plus de 5 ans d'âpres négociations, l'Allemagne a reconnu fin mai avoir commis un génocide sur ce territoire d'Afrique australe qu'elle a colonisé entre 1884 et 1915 et a annoncé le versement de plus d'1,1 milliard d'euros d'aide au développement sur 30 ans. L'accord accepté par le gouvernement namibien comme un pas dans la bonne direction est rejeté par de nombreux Namibiens, dont les représentants des communautés Herero et Nama, qui affirment ne pas avoir été invités à la table des négociations. Des dirigeants palestiniens, dont le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, et une délégation du Fatah, le parti du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, sont arrivés aujourd'hui au Caire pour des discussions avec des représentants égyptiens destinés à consolider le cessez-le-feu décrété avec Israël. L'Égypte a joué un rôle majeur dans la conclusion d'une trêve entre Israël et le Hamas et ses alliés dans la bande de Gaza le mois dernier après 11 jours d'hostilité sans précédent depuis des années.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Parlement israélien va voter dimanche sur le nouveau gouvernement de coalition qui devrait mettre un terme à 12 années de pouvoir ininterrompu de Benjamin Netanyahou en tant que Premier ministre, a annoncé aujourd'hui le président de la Knesset, Yariv Levin. Si la coalition conduite par l'homme d'affaires ultranationaliste Naftali Bennett et le centriste Yair Lapid remporte le vote de confiance, elle prêtera serment le même jour, reléguant Benjamin Netanyahou dans l'opposition. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, est arrivée hier soir au Mexique pour s'entretenir avec le président Andrés Manuel López Obrador du problème de l'immigration clandestine. Le point avec Eric Manirakiza.
Kamala Harris est arrivée en provenance du Guatemala, qui constituait la première étape de son premier voyage à l'étranger depuis sa prise de fonction en janvier. Elle rencontre aujourd'hui le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Nous allons avoir une réunion de travail. Nous allons être les témoins de la signature d'un accord en matière de migration et de développement, a déclaré M. López Obrador. Nous avons des opinions convergentes sur le fait qu'il faut aider les pays d'Amérique centrale, que l'on doit investir pour qu'il y ait du développement, des emplois au Guatemala, au Salvador, au Honduras, et nous sommes disposés à aider, a-t-il ajouté. Le président Joe Biden a promis d'adopter une politique migratoire plus humaine que celle de son prédécesseur Donald Trump. Le nombre de migrants sans papier arrêtés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis a atteint en avril son plus haut niveau depuis 15 ans.
Le président américain Joe Biden s'envole demain mercredi pour l'Europe, attendu mercredi soir en Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Joe Biden va y participer au sommet du G7 après une rencontre avec le premier ministre britannique Boris Johnson. Dimanche, en compagnie de la première dame Jill Biden, il rendra visite à la reine Elisabeth II au château de Windsor. Joe Biden s'envolera ensuite pour Bruxelles avant d'achever son périple de 8 jours à Genève avec un sommet très attendu avec Vladimir Poutine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est prononcé aujourd'hui en faveur d'un second mandat d'Antonio Guterres au poste de secrétaire général des Nations Unies à compter du 1er janvier 2022. Les 15 ont recommandé que les 193 pays membres de l'Assemblée générale de l'ONU le désignent pour un nouveau mandat de 5 ans. Selon l'ambassadeur de l'Estonie auprès du Conseil, Sven Jurgensson, qui préside le Conseil de sécurité pour le mois de juin, cette nomination devrait intervenir le 18 juin prochain. Présent à la Minute Éco avec Nathalie Barre.
En République démocratique du Congo, les chercheurs de l'Observatoire volcanologique de Goma réclament un audit de l'Inspection générale des finances sur leur entité. Ils font état de 6 millions d'euros des bailleurs étrangers qui auraient été mal gérés par les responsables de l'OVG. Leur syndicat demande la totalité des salaires détournés et des équipements pour la surveillance des volcans afin de prévenir des catastrophes comme l'éruption récente du Nyiragongo. Le FMI a approuvé un soutien financier de 650 millions de dollars sur 18 mois au Sénégal, avec décaissement immédiat de 187 millions. Les perspectives macroéconomiques pour 2021 sont sujettes à des risques en raison de la prolongation des effets de la pandémie et de la hausse des prix des produits de base, indique le fonds, qui table sur une croissance sénégalaise de 3,7%. L'Afrique du Sud a continué la lente reprise de son économie au premier trimestre 2021 avec une augmentation du PIB de 1,1%, ce qui se traduit par un taux de croissance annualisé de 4,6%, indique l'Agence sud-africaine des statistiques. Le pays enregistre une croissance positive pour le troisième trimestre consécutif, qui reste toutefois inférieure de 2,7 points par rapport à la même période en 2020.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Suite des matchs amicaux sur le continent à la faveur des journées FIFA, la Guinée a battu ce soir le Kosovo 2-1. Décidément, la République centrafricaine n'y arrive pas, battue 2-0 par le Rwanda vendredi dernier. Les fauves du Bazoubangui sont encore tombés hier 5-0 face aux Amavubi rwandais à Kigali. Le Rwanda se met ici en confiance avant le coup d'envoi des éliminatoires du Mondial 2022, prévu en septembre prochain. Les Rwandais affronteront le Mali, l'Ouganda et le Kenya. La Centrafrique jouera le Nigeria, le Cap-Vert et le Libéria ce soir. À suivre aussi, entre autres matchs, Bénin-Zambie à Cotonou, le Maroc reçoit le Ghana à Rabat, le Sénégal joue le Cap-Vert à Thiès. Parlant justement du Sénégal, le latéral des Lions de la Teranga, Youssouf Sabali, s'est engagé pour 5 saisons avec le Betis Séville. Sabali, 28 ans, formé au Paris Saint-Germain, puis passé en prêt par Evian Tonongaya et Nantes, évoluait depuis 5 ans à Bordeaux, club avec lequel il a disputé 150 matchs, inscrivant un but contre Lens en mai dernier et délivrant 17 passes décisives. Latéral polyvalent, il a reçu en cours de saison une offre de prolongation de Bordeaux qu'il a déclinée pour découvrir la Liga et le Betis, où il retrouvera 2 anciens pensionnaires de la Ligue 1, le milieu Nabil Fekir et le défenseur algérien Aïssa Mandi. Sabali compte 21 sélections avec le Sénégal. Le Congolais Silas Wamangituka, auteur de 11 buts cette saison dans le championnat allemand avec Stuttgart, jouait en fait sous une fausse identité. C'est ce qu'ont révélé le club et le joueur, citoyen de la République démocratique du Congo. Silas Wamangituka s'appelle en réalité Silas Katompa Mvupa. Il est né en octobre 1998 et non 1999, comme indiqué sur ses faux papiers. Stuttgart dit prendre la défense de son joueur, victime d'une machination selon lui. Le club allemand soutient que l'ancien agent du joueur l'avait placé sous tutelle en confisquant ses papiers et en gérant son argent. Après avoir récemment changé d'agent, le jeune homme recruté en 2019 par Stuttgart a décidé de tout avouer de lui-même. « J'ai vécu ces dernières années dans l'angoisse permanente et je me suis fait beaucoup de soucis pour ma famille au Congo », explique l'ailier de 22 ans. Stuttgart dit être en contact avec la Ligue et la Fédération allemande pour clarifier la situation. Ici, en NBA, les Brooklyn Nets ont encore fait parler la poudre face aux Milwaukee Bucks, battus 125-86, pour se détacher 2-0 en demi-finale de la conférence Est. De son côté, Phoenix a parfaitement entamé sa série à l'Ouest en s'imposant contre Denver 122-105. Les Suns ont fini à plus de 54% de réussite au tir. Il faudra aux Nuggets resserrer leur rang demain s'ils veulent faire durer cette série.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le nord de la Côte d'Ivoire a été de nouveau la cible lundi d'une attaque de djihadistes présumée au cours de laquelle un soldat ivoirien a été tué. Cette attaque est la troisième en un peu plus de deux mois commise dans cette région frontalière du Burkina Faso où plus de 130 personnes ont été tuées le week-end dans une attaque à Solane dans le nord. Ces attaques djihadistes sont récurrentes dans la zone dite des trois frontières à cheval sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Qu'est-ce qui explique la montée du djihadisme en Afrique de l'Ouest? Yacouba Ouedraogo, adjoint à Ouagadougou, Mahamadou Sawadogo, chercheur en sécurité.
Ce qui pourrait expliquer cette montée du terrorisme au Sahel et maintenant vers les pays côtiers, c'est premièrement un manque de coordination et de coopération entre les pays. Nous avons un Sahel qui est en train de basculer. Pendant ce temps, on a des pays côtiers qui sont dans l'expectative, qui sont en train d'observer le Sahel basculer, tout en oubliant que si toutefois le Sahel basculait complètement, la prochaine étape pour ces groupes armés terroristes va être forcément les pays côtiers. Et donc en attaquant d'ailleurs le Sahel, ces forces du mal ont réussi à déjà positionner au nord de ces pays côtiers-là des cellules dormantes et des bases arrières qui vont les permettre à un moment donné de déclencher pour pouvoir mener ces attaques. Et c'est le cas présentement en Côte d'Ivoire et c'est le cas aussi au nord du Bénin, du Togo et du Ghana. Donc il y a un manque de coopération et il y a une barrière des frontières qui fait que les pays n'arrivent pas à venir à bout de ces groupes armés terroristes.
Il y a quand même des forces internationales, on va dire, hein, dans le Sahel. Il y a le G5 Sahel également, il y a Barkhane, il y a la MINUSMA au Mali. Est-ce tout simplement une impuissance face à ces terroristes-là?
Les terroristes s'adaptent très rapidement à la réponse donnée par les États. Ce qui fait qu'ils arrivent effectivement à se jouer des frontières, à communautariser le terrorisme. C'est-à-dire qu'ils arrivent à s'intégrer au sein des communautés et à soulever les populations contre les pouvoirs centrales. Et donc c'est leur stratégie imparable qui fait qu'ils disparaissent au sein des communautés. Ils sont couverts par ces communautés qui sont devenues des complices par la force des choses et aussi parce que les armées n'arrivent pas à protéger ces communautés. Ce qui fait que c'est difficile pour les armées régulières effectivement de mener une lutte et aussi d'avoir des résultats probants.
Tout le monde voit les terroristes agir, tout le monde sent qu'ils se dirigent vers le golfe de la Guinée, vous le disiez tout à l'heure avec la Côte d'Ivoire et le Bénin, mais il y a une sorte d'expectative, on se demande que faire.
À mon avis, la solution réside autour d'une coalition entre tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui doivent s'unir autour d'une même force et qui doivent faire tomber les barrières des frontières. Et tant que ces barrières des frontières ne tomberont pas, ça va être difficile de mener une guerre où les groupes armés terroristes se jouent des frontières. C'est primordial. Et aussi, il faut tenir compte des populations dans cette lutte. Il faut impliquer les populations car les populations sont la pièce maîtresse pour une victoire dans cette lutte asymétrique.
La particularité de ces dernières attaques, c'est qu'elles ne sont pas revendiquées. Pourquoi les terroristes ne réclament pas comme ils ont l'habitude de le faire?
Nous avons deux grands groupes qui écument le Burkina Faso. On a l'État islamique au Grand Sahara et on a le groupe de soutien à l'islam aux musulmans. Pour l'État islamique au Grand Sahara, la revendication c'est l'exception, c'est-à-dire qu'ils revendiquent très rarement, sauf vraiment pour des gros coups comme ça. Pour le groupe de soutien à l'islam aux musulmans, effectivement, eux, lorsque c'est une attaque menée par eux, ils font la revendication. Mais d'après les informations qu'on a, ils ont rejeté la paternité de cette attaque. Donc peut-être probablement que, en entendant que ça soit confirmé ou infirmé par l'État islamique au Grand Sahara, on pourrait attribuer cette attaque à l'État islamique au Grand Sahara.
Mahamadou Sawadogo, joint à Ouagadougou au Burkina Faso.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Burkina encore en deuil après l'attaque terroriste la plus meurtrière depuis 2015. Des individus armés ont pris d'assaut le village de Solan dans le nord-est, faisant au moins 160 morts. Un bilan macabre qui vient rappeler que ces groupes sont plus actifs que jamais dans le Sahel, malgré les mesures prises dans ces pays et au niveau régional. Qu'est-ce qui explique la montée en puissance des groupes djihadistes au Burkina Faso? Quelle réponse face aux groupes armés? Comment sont pris en charge les populations déplacées par l'insécurité? Nous discuterons de
tout cela ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique, VOA.
Au Tchad, après plusieurs années de lutte pour la reconnaissance de son parti, les transformateurs, Dr. Succès Masra vient d'obtenir des autorités de transition de N'Djamena son autorisation de fonctionner comme parti politique sur l'ensemble du territoire national. Pour le président national de ce parti, Dr. Succès Masra, vous allez l'entendre, c'est une partie de la victoire sur l'injustice contre laquelle il s'est battu depuis plus de 3 ans. Il est interrogé par André Kodbajinga, notre correspondant à N'Djamena au Tchad.
C'est une victoire d'étape de la justice sur l'injustice. C'est au nom de la justice que nous nous battons. Nous avons fait la promesse devant la nation tchadienne de ne jamais nous mettre genoux. Je peux le dire aux Tchadiens aujourd'hui. Ceux qui hésitaient, je leur dis, mettez-vous debout à nos côtés. Et ensemble, nous allons y arriver. La fin du système d'injustice est proche. Et un pas, puis un autre pas, et tenir pour gagner chaque pas, comme le dirait quelqu'un, nous y conduira. Nous allons arriver à la terre promise de la transformation du Tchad, mais ça passe par le désert. Nous avons eu 3 ans de cicatrices. Mais aujourd'hui, nous sommes restaurés dans trois, d'une certaine manière. Il n'y a pas d'être plus content que cela, mais en fait, on est en train de libérer les énergies parce que nous serons contents et nous célébrerons le jour où la transformation effective du Tchad pour restaurer la dignité à chaque Tchadien, chaque Tchadienne sera effective.
Vous dites que c'est une victoire sur l'injustice, mais vous faites partie de la coalition Wakitama qui, jusqu'à aujourd'hui, ne reconnaît pas encore la légitimité des autorités de transition. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire?
Non, pas du tout. Nous sommes devenus parti politique avant le coup d'État qui a eu lieu. Une administration prenne une décision pour dire et demander à tout le monde dans l'administration territoriale de notre pays de ne plus continuer à nous emmerder de façon arbitraire. Ce n'est que justice. Mais est-ce que ça remet en cause qu'il y a un coup d'État? Si, il y a un coup d'État. Nous sommes dans une coordination qui marche depuis 13 semaines, c'est jamais arrivé dans l'histoire de notre pays. 1200 arrestations, 16 morts, 450 personnes blessées. Mais nous sommes debout et engagés. Ils sont illégaux? Oui, ils sont illégaux. Pour discuter et dialoguer, on a besoin d'être légal ou illégal? Non, on a simplement besoin d'être des Tchadiens. Nous voulons même que des rebelles qui sont considérés par l'administration ou par la loi comme des illégaux soient à la table de la discussion. Croyez-nous, et c'est comme ça que nous allons bâtir le Tchad de demain.
Aujourd'hui, avec l'autorisation en main, est-ce que Succès Masra va continuer donc à appeler le peuple tchadien à descendre dans la rue?
Descendre dans la rue, c'est un moyen de lutte. Marcher, là, c'est un droit. Dieu même, dans sa souveraineté, a voulu qu'un bébé rampe et après ramper, c'est marcher. Si on veut interdire aux Tchadiens de marcher, on n'a rien gagné. Un peuple qui n'est pas capable de marcher, est-il capable d'arracher d'autres libertés? Je n'y crois pas. On m'entend très très bien. S'ils ont rendu le Tchad invivable, s'il faut rendre le pays ingouvernable pour qu'on s'asseye et qu'on organise un dialogue inclusif, alors nous allons le faire. Nous pouvons laisser la trêve à condition d'être entendus. Si des gens veulent nous mettre devant un fait accompli, où on recycle les mêmes personnes d'hier et d'aujourd'hui qui veulent faire muter un système, ils nous auront devant eux. Je leur rappelle qu'ils ont tué 16 de mes militants et de mes marcheurs, qu'ils ont arrêté 1200 personnes, qu'ils ont blessé plus de 450 personnes. Je n'ai pas l'intention de troquer ça contre quoi que ce soit. Ce pays nous appartient à tous. Au nom de quoi des gens qui ont pillé, qui ont volé, qui ont conduit le système à la situation actuelle, c'est eux qu'on veut recycler et nous mettre à la tête du pays et nous allons nous taire et rester là. Écoutez, non, il faut que ça soit compris par tout le monde. Personne ne gouvernera le Tchad dans la tranquillité si nous sommes exclus. Et nous n'avons encore rien gagné. Nous avons été rétablis dans un droit qui était déjà acquis. Ce que nous devons gagner, c'est devant nous.
C'était Dr. Succès Masra, président du parti Les Transformateurs.
N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La Belgique va restituer le 21 juin une relique de Patrice Lumumba, héros congolais de la lutte anticoloniale, lors d'une cérémonie à Bruxelles. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été même invité à y prendre part. Mais l'un de ses fils dénonce une récupération politique. Marius Mounga a joint Guy Patrice Lumumba à Bruxelles.
Je ne suis pas du tout d'accord, je parle sur le plan politique. Nous avons déposé, nous, enfants des Lumumba, une plainte, c'était il y a 10 ans de cela, contre 12 personnalités belges. Et les procureurs du roi avaient classé, c'était un crime contre l'humanité, donc imprescriptible. De 2011, nous sommes en 2021, on a éditionné tous les 12 accusés, sachant que 10 sont déjà décédés, parce qu'ils ont au moins plus de 80 ans. Il en reste 2. Et voilà que la relique est sortie accidentellement, et jusqu'à ce qu'on puisse nous la restituer. Mais il était dit par le procureur du roi que cette dent est restituée aux enfants des Lumumba. Donc ce n'était pas au gouvernement congolais. Mais nous-mêmes, nous n'avions pas la possibilité, vu que c'était une affaire d'État, et mes frères sont partis, comme ils sont au pays, voir le président de la République, qui lui a accepté. Mais voilà là où s'écorce la chose, parce que c'est une affaire d'État. Le président de la République, il a déjà un dossier que le gouvernement congolais doit se porter partie civile dans la plainte. Parce que Lumumba est mort, chef du gouvernement, premier ministre, et lui, président du Congo, il doit également se joindre à nous. Mais là, il laisse cela de côté, il accepte seulement de se charger de la relique, il n'informe ni le gouvernement, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de gouvernement, il n'informe ni le parlement, il n'informe ni les sénats. Il en fait une affaire personnelle, son cabinet. De ce fait, je refusais, et je n'ai pas la même perception que mes frères, que mes frères se retrouvent dans une grande précarité, et c'est là que le président a cherché à jouer en disant « Je peux également les monnayer, c'est ce qu'ils ont fait, pour que je puisse en faire une affaire personnelle. »
Alors, Monsieur Lumumba, le roi des Belges a annulé son voyage qu'il avait prévu à Kinshasa le 30 juin. Quelle est votre réaction par rapport à cela?
Je suis satisfait parce qu'il devait tout d'abord ordonner dans son propre pays qu'il y ait un procès à la plainte que nous avons déposée. Et là, c'était l'attitude vraiment royale. Qu'il puisse reconnaître au moins un des torts que la Belgique a commis au Congo. Il y en a bien d'autres. Et non pas sauter à l'occasion, aller tout de suite. Là où on va enterrer une partie du corps de mon père.
Guy Patrice Lumumba, fils de Patrice Lumumba, ancien premier ministre du Congo.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Bénin, un jeune activiste propose de nettoyer l'embarcadère de Granvier, un lieu touristique, mais où la pollution, notamment plastique, est importante. Le mouvement Pression écologique sensibilise la population à la préservation de l'environnement de façon ludique. Reportage d'Arika Ling Lopi.
L'embarcadère de Granvier, indispensable pour se rendre à la Venise d'Afrique, est pollué. Alors Anna Seko a décidé de ne pas rester les bras croisés.
Là, c'est des sacs plastiques, je vais dire. Bon, je ne sais pas trop la matière, mais ça ressemble à des sacs plastiques. Donc c'est enfoui dans le sol. Et il y en a plein comme ça.
Anas, surnommé le ramasseur d'ordures, a fondé le mouvement Pression écologique. L'intérêt du Béninois pour la planète ne date pas d'hier.
J'ai commencé depuis la classe de terminale, quand j'ai constaté qu'il y a des élèves qui, en fait, après avoir mangé, laissaient traîner leurs déchets dans la cour de l'école alors qu'il y avait des poubelles. Donc c'est là que, en fait, l'engagement a commencé.
Un engagement qui ne peut pas se faire sans la contribution de tous, comme ces mères de famille, qu'Anas a tenu à initier.
On est là pour déterrer les sachets parce que c'est pas bon pour la santé et ça pollue l'environnement.
Je suis une ardente défenseuse de la nature, donc à chaque fois qu'il y a une activité de saleté, je pars. Parce que pour vivre mieux, il faut qu'on vive dans un environnement frais.
Le groupe avait déjà nettoyé l'embarcadère, maintenant il s'attaque aux déchets enfouis et même les petites mains s'y mettent.
Déjà petite comme ça, c'est fait des actions comme ça, en grandissant, elle ne voudra plus polluer l'environnement.
Les déchets, une fois regroupés, à quelques pas de l'embarcadère, place à la sensibilisation auprès des marchandes.
Elles se disent que même si elles le polluent, ce n'est pas à leur charge de nettoyer. Mais elles doivent savoir qu'en réalité, en le polluant, ça ne contribue pas au bien-être de leur santé et surtout à la nourriture qu'elles vendent.
Après le ramassage et la sensibilisation, l'activité se termine toujours par des pas de danse.
On allie écologie et fête, écologie et danse, écologie et chill. Pour faire passer le message écologique et en même temps créer de l'harmonie, de la cohésion, un esprit de communauté.
Un pari déjà gagné, Anna souhaite étendre son initiative citoyenne. Et pour cela, il a besoin de matériel. Darika Lopi pour VOA Afrique, Cotonou.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.